ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots.
Comme à la radio.
Comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes.
Un mercredi par mois, de 17 à 18h.
Sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait
comme à la radio, sur le 92.2 Canal Sud à Toulouse.
À la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce.
Bonjour, vous êtes sur Canal Sud 92.2 et c'est comme à la radio jusqu'à 18h. Comme à la radio, c'est un peu de bruit pour briser le silence, parler du monde comme il va, comme il ne va pas, comme on le subit, comme on y agit. Comment on s'y agite, comment on s'irradie, comment on s'y contamine, comment on y travaille au cœur des réacteurs. Parler de ce monde qui nous expose et qui explose des corps, des cellules, des vies. Cette quatrième émission autour du nucléaire, c'est l'histoire d'une enquête ratée et d'un effarement qui n'en finit pas. Effarement n'est peut-être pas le mot qui convient, mais comment appeler le sentiment que l'on ressent quand on découvre peu à peu ce qui se cache derrière la propagande pro-nucléaire et ses mensonges? Comment appelle-t-on ce sentiment? La colère? Oui, certainement. Dans cette émission, vous entendrez des hommes en colère, ce qu'on appelle la viande à REM, quand on mesurait la radioactivité en REM et pas encore en millisieverts. Viande à REM, comme il y a la chair à canon, ce qu'on sacrifie sur l'autel du nucléaire et du monde qui va avec.
Chaque année, ils sont entre 20 et 30 000 travailleurs, intervenant en sous-traitance dans l'industrie nucléaire et directement affectés aux travaux sous rayonnement. Ils sont robinettiers, calorifugeurs, mécaniciens, électriciens, soudeurs. Ce sont eux qui nettoient les réacteurs des centrales lors des arrêts de tranches, ces périodes où les centrales s'arrêtent pour des missions d'entretien. Ces ouvriers travaillent dans des conditions hors normes. Soumis au rayonnement radioactif lors de leurs activités, ils subissent en plus une pression énorme. En effet, chaque journée d'arrêt de tranches d'une centrale coûte 1 million d'euros à EDF. Tout doit aller très vite, de plus en plus vite. Les contraintes liées à la sous-traitance sont énormes. Certains d'entre eux sont nomades et se déplacent au gré des chantiers. Les doses radioactives ingérées sont importantes. Pour certains, le manque total de transparence dans la sous-traitance pose de sérieux problèmes quant à la sécurité des centrales.
On entendra aussi une femme en colère, une femme qui depuis plus de 30 ans mène des recherches en santé publique sur les maladies professionnelles et qui ne cesse d'informer, de dénoncer, de se battre aux côtés des salariés de la sous-traitance les plus exposés et les plus précaires.
À Golfech, notre voisine radioactive, notre plus proche menace nucléaire, un arrêt de tranche décennale a eu lieu au printemps dernier. Il a duré 3 mois, d'avril à juin. Nous sommes allés sur place pour rencontrer ces travailleurs. Nous voulions récolter leurs témoignages. C'est ça l'enquête ratée.
On était déjà venu à Golfech, qui est une petite ville calme, et puis on est revenu pendant l'arrêt de tranche décennale, et là, la même petite ville était pleine de monde. Aux terrasses des cafés, dans les campings, dans les rues. Avec nos micros, on est allé à la rencontre de tous ces gens. Devant la centrale d'abord, où on nous a renvoyés vers le service communication d'EDF. Et puis un gars est parti en courant en nous disant qu'il ne fallait pas lui parler là, en vue et au su de tous, devant le portail. Donc là on a un peu pris la mesure de nos gros sabots et du risque encouru par les salariés à parler de leur travail. On a quitté les lieux et on est allé au camping, toujours au pied des tours mais un peu plus caché. Au mois de mars, le camping était plein, mais pas l'ombre d'un touriste. Là nous avons rencontré deux femmes de travailleurs sous-traitants du nucléaire. Elles n'ont pas souhaité être enregistrées, mais nous ont appris qu'une partie des nomades du nucléaire sont en fait des gens du voyage qui ont troqué les saisons agricoles avec la sous-traitance et la maintenance du nucléaire et qui, pour pouvoir rester nomades, au gré des arrêts tranches, vont de Fessenheim à Golfech, de Blaye à Tricastin, de camping en camping, toujours sous les fumées des centrales, et payant un droit pour poser leur caravane près du bloc sanitaire allant de 400 à 800 euros par mois. Et puis finalement, on est allé au bar où plusieurs groupes de travailleurs savouraient leur fin de journée au soleil devant une bière. On a discuté avec plusieurs personnes et systématiquement, on s'est vu refuser de parler dans le micro. On n'est pas passé par le service presse et ça, on sentait bien que ça crispait les gens. Si on ne s'adresse pas à la voix officielle, c'est qu'on est anti-nucléaire et qu'on risque de porter préjudice aux personnes qui nous parleraient ou à leur boulot. Il y a ceux qui ne se pensent pas assez experts pour parler concrètement de leur travail, il y a ceux qui nous agressent, il y a ceux qui nous glissent, qu'ils ont mal au sinus en sortant du réacteur, que ça les inquiète mais qui ne comprennent pas tellement ce qui se passe dans leur corps. Il y a ceux qui nous disent que c'est le nucléaire qui a permis de payer leur baraque et que ça ne se fait pas de cracher dans la soupe. Il y a ceux qui affirment qu'il n'y a rien à dire et que tout est transparent. En tout cas, de tout cela, salariés d'EDF ou des entreprises sous-traitants, aucun n'a accepté de parler dans le micro. Finalement, le seul qui acceptera de nous parler et d'être enregistré, c'est Jacques Lacombe, salarié direct d'EDF et donc pas sous-traitant, et délégué CGT à la centrale, qui nous a donc rencontrés, avec qui nous avons pris rendez-vous. On vous propose de l'écouter.
Donc, Jacques Lacombe, je suis agent EDF. À mi-temps, je suis détaché syndical au titre de secrétaire du comité d'établissement. Je suis aussi délégué du personnel et le reste du temps, je suis au service maintenance, au service qui est dit automatisme.
Alors nous, on voulait vous demander, pour comprendre un peu, comment s'organise le travail à l'intérieur de la centrale, comment sont réparties les différentes tâches notamment entre les salariés d'EDF, justement, et puis les sous-traitants.
Les salariés EDF, donc, à l'année ou sur un arrêt de tranche?
Peut-être pour commencer à l'année.
Ouais. À l'année, donc, il y a le service conduite qui exploite le système, qui pilote le réacteur, donc qui travaille en 3-8. Il y a 14 équipes. Qui tournent avec des roulements, parfois ils sont la journée pour se former. Ils travaillent donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par roulement. Les services de maintenance qui sont à un horaire en gros de 8 heures à 17 heures sur 5 jours. Et après, il y a la surveillance du site qui est partagée entre les surveillants EDF et les surveillants de l'entreprise Lancry. L'Ancri, qui est une entreprise privée et qui, eux aussi, travaillent en 3-8.
Et en plus, il y a la gendarmerie.
Et en plus, il y a la gendarmerie, oui, en permanence.
Donc, à l'année, ça représente combien de salariés?
1000 à peu près.
1000. Et sur les 1000, combien sont salariés d'EDF et combien sont...
Il y en a 700 à EDF.
Donc ça, c'est à l'année? Et quand on est dans une phase, une tranche décennale comme actuellement...
C'est 1300 prestataires en plus des prestataires permanents, donc 1300 personnes qui vont faire 89 jours, ce qui est prévu, et un budget quand même de maintenance et d'investissement de 38 millions que pour l'arrêt. On remplace déjà un tiers de l'uranium, on met de l'uranium neuf parce que l'uranium c'est quand même un combustible, alors donc. Il y a beaucoup de lieux où on peut travailler rien que quand la centrale est à l'arrêt. Et on profite de ce chargement, de déchargement pour faire tout ce qui est de la maintenance préventive. Mais là, ça nous permet encore de faire beaucoup plus d'essais, l'étanchéité de l'enceinte du réacteur qui monte en pression. Il y a de la tuyauterie. Il y a plein de choses qu'on peut faire que quand la centrale est à l'arrêt. Sur un arrêt de tranche, on ne va pas parler des décennales, c'est assez spécial, mais on a raccourci les délais de moitié sur un arrêt de tranche. Donc ça a accéléré la sous-traitance. Donc l'agent EDF, il est passé plus en surveillance. Et derrière, ben, ça a fait qu'à un moment, il y a eu restriction des effectifs. On s'est servi de la sous-traitance, même en dehors des arrêts de tranche. Ça pose problème parce que EDF, pour fidéliser les prestataires, paye beaucoup plus qu'il y a certaines années. Et quand je dis beaucoup plus, c'est sur, peut-être sur les 5-7 dernières années, c'est de l'ordre de 30 ou 40%. Et on voit dans le même moment le salaire des prestataires, celui-là qui effectue le geste professionnel, baisser. Aujourd'hui, il faut se battre pour qu'ils aient en frais de déplacement 62 euros par jour, avoir ce minimum. C'est-à-dire que, avec 62 euros, si vous, payez une chambre d'hôtel, deux repas et le petit déjeuner, même à Valence d'Agen, où d'ailleurs il n'y a qu'un hôtel, c'est la caravane à plusieurs, où, rien que ça, pourquoi il n'y a pas. Puisque les entreprises leur donnent l'argent, le donnent pas que pour les actionnaires. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça ne devrait pas revenir que pour grossir le bénéfice des entreprises. Il devrait en revenir aujourd'hui aux salariés qui font le geste professionnel.
Est-ce que au cours de votre carrière, donc depuis 1982, vous avez eu affaire est-ce que vous avez vu des gens qui avaient développé des maladies professionnelles spécifiques au nucléaire?
Spécifiques au nucléaire, non. Non, honnêtement, non.
Des problèmes
dans le nucléaire, enfin, moi je parle en centrale nucléaire, oui. Non. Après, moi je ne suis pas là pour défendre le nucléaire à tout va, puisqu'on est là pour défendre le salarié, la santé du salarié. Et bien sûr, que ce soit en termes de nucléaire, sécurité classique ou n'importe. Vu les doses qui sont prises et quand on voit les études qui ont été faites par rapport au nucléaire sur des accidents, comme on parle à Fukushima et tout ça, quand on regarde les doses, c'est quand même autre chose. Par contre, on est la première génération à avoir travaillé toute une carrière dans le nucléaire. Là-dessus, aujourd'hui, ça arrive même aujourd'hui des professeurs qui disent que ça aura fait, quand on la met sur les pommes de terre pour pas qu'elle germe, du bien, quoi. Mais c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on le verra. Mais carrément sur des... Autant on l'a vu en radiologie, on l'a vu à Réva il n'y a pas si longtemps que ça. Dans les centrales nucléaires, à ma connaissance, il n'y en a pas.
D'accord.
J'en ai pas connu.
Parce que vous avez l'impression que les normes qui sont en place actuellement sont suffisamment strictes pour que les salariés soient protégés,
oui,
dans le nucléaire.
Oui, oui. Si elles sont respectées, et aujourd'hui, moi, de ce qu'on entend, hein, parce qu'on discute avec des salariés, quand on les voit surtout sur plusieurs années, c'est le cas, oui. Aujourd'hui, on a plus de problèmes avec les risques psychosociaux, ou de plaintes, ou de cas à traiter, que de problèmes à qu'on entend parler suite à des doses, qu'on a des doutes ou autre.
Qu'est-ce que vous appelez les problèmes psychosociaux ?
Eh bien, des gens qui, vous le disiez, l'augmentation des rythmes de travail, la tenue des plannings ou la baisse des effectifs. Quand on est spécialiste dans certains services et que le personnel est en sous-effectif, eh bien, on essaie d'y arriver quand même et on a des risques de psychosociaux, c'est-à-dire que des dépressions, des choses comme ça. Mm-hmm. Ça, on ne peut pas le nier. Si on continue à être en sous-effectif, et on le voit d'ailleurs dans d'autres entreprises aujourd'hui, ça induit forcément ce problème-là.
Et du coup, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'organisation du travail dans la centrale entre les réalités pour les salariés d'EDF et les sous-traitants et les intérimaires permet la sécurité des installations ?
Oui. Aujourd'hui, ça permet les installations. Il ne faudra peut-être pas aller plus loin dans ces conditions, puisqu'on parle aujourd'hui de beaucoup plus de travaux qui vont être imposés pour la maintenance des centrales nucléaires. Si on ne fait pas attention de mettre des moyens adéquats derrière, on va vers peut-être des problèmes. Enfin, des problèmes. Si il n'y a pas de raison que la sûreté et la sécurité ne soient pas maintenues, ou des problèmes que les gens, en voulant essayer d'y arriver, ça risque de poser des problèmes de santé aux gens. Donc oui, si aujourd'hui, si on augmente ce taux de passage au privé, la pression sera encore plus forte et elle arrivera un moment où le nucléaire sera en danger, ou comme on le voit dans d'autres entreprises où ça peut être moins de répercussions.
Par rapport toujours à cette histoire de dose, donc il y a des études qui mettent en avant la dangerosité aussi des faibles doses. de prendre régulièrement des faibles doses, que ça peut avoir des conséquences.
Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi, je ne peux pas m'avancer sur les futures générations, mais il y a plein d'études qui disent, il y a plein d'études peut-être qui disent ça et plein d'études qui disent le contraire. Aujourd'hui, moi, j'ai eu discuter avec des médecins, alors pronucléaires soit, mais qui disent que sur un bain à faible dose et régulièrement, presque il y a des années où on n'en aurait pas, il faudrait y aller. En me montrant, et d'ailleurs, j'étais en stage chez Merlin, enfin maintenant c'est Roy Rose qui s'appelle, ils ont changé trois fois de marque, c'est ceux qui font la mesure de neutronique du cœur. Il vous montre les bienfaits. Alors, à un moment, on faisait des bouts avec des particules radioactives pour le bienfait des personnes.
D'accord.
Il vous montre les affiches quand vous allez en salle d'attente, parce qu'il vous montre qu'à un moment, on faisait des bains de boue en mettant des radiations.
Non, ça a été arrêté, ça a été supprimé.
Je pense, oui, mais eux, ils pensaient bien que ça pouvait améliorer la santé des personnes.
Ouais.
C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en étant la première génération, moi, je ne m'avancerai pas ni d'un côté ou de l'autre, mais je n'irai pas prendre de doses quand même chaque année. Si une année, j'en ai un peu moins pour avoir ma dose en croyant que ça irait mieux. Moins on prend de doses aujourd'hui, c'est ce qui est préconisé, moins on en prendra. Mmh. Si peut-être on se revoit dans 30 ans et que on s'aperçoit de quelque chose, c'est depuis tous les temps, on ne peut pas avancer des choses aussi sûres d'un côté ou de l'autre sans retour d'expérience. Les faibles doses, ça fait rien, enfin, je sais pas moi, à moins que...
À moins que, donc plutôt que de vous servir la suite de l'argumentaire pronucléaire de Jacques Lacombe, syndicaliste CGT à la centrale nucléaire de Golfech, on a choisi de donner la parole à Annie Thébaumoni qui s'acharne depuis des années à rendre le visible, le à moins que.
Donc Annie Thébaumoni, bonjour, tu es chercheuse à l'INSERM, sociologue, et tu travailles depuis plus de 30 ans sur les maladies professionnelles et la sous-traitance. Donc, on aurait quelques questions à te poser par rapport au nucléaire en général, peut-être plus précisément par rapport à Golfech, si jamais tu as eu l'occasion d'aller à Golfech ou de travailler sur cette centrale particulièrement, je ne sais pas.
Alors, j'aurais aimé pouvoir travailler et notamment pouvoir entrer en contact avec des travailleurs qui étaient sur la maintenance du bâtiment réacteur et qui ont été... contaminé, il y a eu un incident, ça remonte à 10 ans maintenant, il y a eu un incident de contamination, c'est-à-dire qu'une alerte a sonné dans le bâtiment réacteur en fin d'arrêt de tranche, et les travailleurs ont été... Alors, il y en a qui ont averti le service de conduite d'EDF. Le service de conduite a décidé de vérifier d'abord que l'alerte ne sonnait pas par erreur. Et il y a une centaine de travailleurs qui ont été contaminés, qui ont respiré de la poussière radioactive. C'était un problème de changement, d'erreur de filtre. Il y aurait dû y avoir un filtre total. Et là, c'était un filtre pour seulement certains radioéléments et pas d'autres. Et donc, il y a eu contamination. Je voulais faire un travail complémentaire de l'étude que j'ai publiée à l'INSERM en 2000 sur qu'est-ce qui se passe pour les travailleurs quand ils sont contaminés, comment ils sont suivis. J'ai demandé tout d'abord au CHSCT qui m'a renvoyé vers les médecins du travail en disant « Nous, on n'a pas l'information, on ne peut pas vous donner d'informations, mais les médecins du travail pourraient le faire ». Le médecin du travail de la centrale a refusé, m'a demandé de faire un protocole d'étude pour me permettre d'accéder au minimum au médecin du travail des entreprises sous-traitantes qui étaient intervenues. Je n'avais même pas le nom des entreprises sous-traitantes qui étaient intervenues. J'ai demandé le soutien du médecin inspecteur régional du travail qui est à Toulouse, qui est intervenu à mes côtés pour demander aux médecins de la centrale de me donner l'information, de me donner accès. Et en fait, moi j'ai envoyé le protocole, puisque j'ai fait un protocole d'études, comme on fait dans mon métier, pour dire, c'est pas de l'amateurisme, c'est vraiment un travail de recherche complémentaire de ce que j'ai toujours fait dans le nucléaire, et vous connaissez mes travaux, ils ont été publiés, etc. Et la seule réponse que j'ai eue, c'est par le médecin du travail, ça a été qu'il ne fallait pas rallumer la psychophobie par rapport à la radioactivité, et que donc il ne pouvait pas me donner accès. Donc je n'ai pas travaillé sur Goldfish, mais ce n'est pas faute de l'avoir voulu.
Comment ça se passe justement, ton travail, tu le bases sur des sources, comment tu as accès à ces sources, comment ça fonctionne cette recherche en sociologie, mais sur ce sujet particulier?
Alors la recherche, elle a consisté d'abord à travailler avec des médecins du travail qui avaient commencé un travail d'étude, d'enquête auprès d'un échantillon aléatoire d'une centaine de travailleurs à l'occasion d'un arrêt de tranche à Chinon. Et l'objectif initial, c'était le suivi médico-réglementaire, c'est-à-dire comment ils sont suivis au niveau dosimétrique, comment ils sont suivis en médecine du travail. Ils avaient rassemblé donc un certain nombre de données, et ils m'ont demandé de travailler avec eux sur l'analyse de ces données, qui nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait un gros problème de suivi dosimétrique, qu'il y avait un problème aussi de suivi en médecine du travail, parce que avec la dispersion, en fait, il n'y avait pas deux travailleurs qui étaient suivis de la même façon, même s'il y avait le rituel d'une visite tous les 6 mois qui était respecté, mais en fin de compte, ce n'était pas un vrai suivi médical. Et puis, moi, du coup, j'ai découvert ce qu'était la sous-traitance de la maintenance de l'industrie nucléaire, et j'ai décidé de proposer au ministère du Travail de continuer un travail qualitatif de suivi de ces salariés que j'ai suivi pratiquement pendant 10 ans. Donc avec successivement plusieurs étapes dans la recherche. L'objectif de départ, c'était quelles conditions de travail, quelles conditions de santé, et comment ces travailleurs, dans la durée, vivent cette situation du point de vue du travail, du point de vue de la vie familiale et du point de vue du problème des déplacements, etc. Donc c'est comme ça que j'ai été amenée à faire ce travail très approfondi, qui m'a du coup amenée à interroger la raison pour laquelle, dans un secteur aussi à risque que le nucléaire, on avait une sous-traitance institutionnalisée de la maintenance. Alors que la maintenance est la fonction, je dirais, la plus essentielle pour maintenir la sûreté des installations. Et en fait, c'est là où j'ai compris, en fait on l'a compris très tôt, dès la première étape, que le respect des règles de radioprotection, c'est-à-dire notamment le respect des limites d'exposition au rayonnement ionisant, n'était possible qu'avec une répartition de l'exposition sur un très grand nombre de travailleurs, dont des travailleurs intervenant sur des temps très courts. C'est ce qu'on a appelé la gestion de l'emploi par la dose.
Voilà, donc justement cette histoire de dose, donc il y a une histoire de dose individuelle et une histoire de dose collective. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux de quoi il s'agit ?
La dose collective, c'est en fait quand on fait le bilan de toutes les doses reçues par des salariés individuellement sur les sites, on arrive à un montant de doses dites collectives. En fait, il y a un enregistrement de la dosimétrie qui est systématique, qui est individualisé, et le cumul de toutes ces doses individuelles fait la dose collective. Récemment, j'ai eu l'occasion de regarder les rapports de l'IRSN, donc de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui contrôle la dosimétrie des travailleurs. En 2009, ils avaient de l'ordre de 22 000 salariés contrôlés pour la radioactivité dans une rubrique qui s'appelle « Maintenance et logistique ». Et en 2010, il n'y en avait plus que 7 000. J'étais très surprise. Et dans un secteur de travailleurs non nucléaires, mais exposés à la radioactivité, je me suis aperçue que très probablement une partie des travailleurs qui interviennent en centrale nucléaire étaient recensés dans ce secteur-là. Alors, c'est une hypothèse parce que pratiquement 75% des travailleurs surveillés pour la radioactivité étiquetés non nucléaires, on n'a pas d'informations sur ce qu'ils font. Mais il y a au moins un métier sur lequel on a de l'information, c'est le contrôle gammagraphique, le contrôle, ce qu'on appelle les contrôles non destructifs, c'est l'utilisation d'une source radioactive pour vérifier qu'un tuyau n'a pas de fissure, etc., pour vérifier la structure même du tuyau. Et je sais que, par l'enquête que j'ai faite, que les contrôleurs qui font ce type de contrôle travaillent alternativement, par exemple, dans le nucléaire et la pétrochimie. Donc, je suppose qu'une partie de ces travailleurs du nucléaire sont recensés du côté non nucléaire. Et en faisant ce glissement de catégorie, il est probable que la dose collective a baissé d'un cran.
Mais de toute façon, il me semble avoir lu dans tes travaux que par rapport à cette dose collective, elle est en gros subie ou assumée, je ne sais pas, en très grande majorité par justement des travailleurs intérimaires, des travailleurs qui travaillent pour les entreprises sous-traitantes.
Alors, 80% de la dose collective, de l'exposition au rayonnement ionisant, est supportée par les travailleurs sous-traitants. Alors, avec... En fait, il y a une double division du travail dans le nucléaire. Il y a une division du travail entre EDF, les agents EDF, qui assurent la préparation et le contrôle de la maintenance. Et puis, à l'intérieur même de la maintenance, ceux qui font le travail concret, il y a là une répartition, une division du travail entre ceux qui font des travaux spécialisés, qui sont une minorité, et puis tous ceux qui préparent les travaux pour qu'il y ait notamment, entre autres, qu'il y ait le moins de contamination radioactive possible. Donc c'est tous les travaux de décontamination, c'est les ouvertures de générateurs de vapeur, obturer des... Alors dans les circuits, il y a de l'eau qui est contaminée, qui est très fortement contaminée radioactive. Il faut obturer ces tuyaux. Et c'est ce qu'on appelle les fameux jumpers. C'est un travail qui s'apparente à des sportifs de très haut niveau. Ils ont d'ailleurs un entraînement comme sportif de très haut niveau. Et en fait, ces travailleurs, ils se succèdent sur 1 à 2 minutes. C'est-à-dire pour enlever ou mettre ce qu'ils appellent une table GV, ils vont se succéder à 5. À raison de 2 minutes chacun. Et en 2 minutes, ils prennent une dose qui est déjà très importante, qui fait que très souvent, ils voient leur... alors, ils appellent ça le crédit d'irradiation, ce qui est assez horrible. Leur crédit d'irradiation s'épuisait très rapidement. Et c'est là où on a des pratiques qui sont souvent à l'incitation des employeurs. Des travailleurs mettent le dosimètre de côté, le temps de faire l'intervention pour que l'accumulation n'apparaisse pas trop vite.
Parce que s'il y a accumulation, ils perdent leur travail en fait. Ils sont mis au chômage technique ou c'est une fin de contrat, comme c'est des intérimaires.
En fait, c'est soit une fin de contrat quand c'est des... Alors, il y a une catégorie de contrats qui aide bien les industriels du nucléaire, c'est le contrat à durée de chantier. Parce que la durée n'est pas déterminée, justement. Mais ce n'est pas en même temps un CDI au sens classique du terme. Et donc, s'ils arrivent en limite de dose, comme il y a un système interconnecté entre les différents sites nucléaires, lorsqu'ils rentrent en centrale, on regarde à partir de leur badge où ils en sont de leur dosimétrie. Si la dosimétrie dépasse, alors ils ont mis des seuils qui sont un peu inférieurs à la limite des 20 millisieverts, c'est souvent autour de 18 millisieverts, eh bien ils ne peuvent pas rentrer. Et comme il n'y a pas de trace, ils ne peuvent pas porter plainte parce que ça leur porte préjudice à eux. Alors que logiquement, une mesure de prévention ne doit pas porter plainte aux salariés. Et ils auraient toutes les raisons de plaider le préjudice d'avoir été exposé et de perdre leur emploi du fait même de cette exposition.
D'où l'intérêt de la sous-traitance.
D'où l'intérêt de la sous-traitance, parce qu'évidemment, quand on a le statut EDF, ça n'arrive jamais.
Les salariés d'EDF sont organisés, au moins il y a les syndicats, etc., qui, eux, ont lutté par rapport à ça. Est-ce que c'est parce que les syndicats étaient trop revendicatifs que EDF s'est orienté vers une politique de sous-traitance?
C'est, en fait, c'est plus basique que ça, en fait. C'est que, très rapidement, avec l'accroissement du nombre de centrales, etc., ils ont buté sur le fait qu'ils ne pourraient pas respecter les limites de dose. Et pourtant, on était à 50 millisieverts, c'est-à-dire 2,5 fois à la valeur limite actuelle. Au début des années 80, ils se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient pas à respecter les limites de dose. Et ils savaient très bien que syndicalement, ce serait inacceptable. Donc, on a vu la sous-traitance se développer à partir du début des années 80, prendre de l'ampleur. Et en 88, il y avait eu une injonction de la Commission européenne pour qu'ils mettent un peu d'ordre dans leur dosimétrie. Parce que normalement, c'était le service, le SCPRI, le service central de protection contre les rayonnements ionisants, avec M. Pellerin, celui qui a dit que le nuage s'arrêtait à la frontière pour Tchernobyl, qui faisait le contrôle de la dosimétrie des travailleurs. Et en pratique, les données qui étaient fournies à la Commission européenne, il y avait des différences énormes entre ce que EDF donnait et ce que le SCPRI donnait. Donc, injonction de l'Union européenne, un rapport interne à EDF, le rapport Renault, qui est sorti en 88, dit à partir de maintenant, on va sous-traiter, on va faire. Et à ce moment-là, ça a été massivement le passage de tout le travail concret, tout le travail réel, de sous-traitance, de maintenance qui a été sous-traité.
Tout le travail le plus dangereux.
Tout le travail le plus dangereux. Parce que, en fait, c'est là où les agents EDF se sont vus. Enfin, ont vu leur travail se transformer. Ils étaient techniciens pour certains. Et en fait, ils sont devenus, contrôleurs des ouvriers de la sous-traitance.
Alors, est-ce que c'est ces emplois-là qu'on appelle la servitude nucléaire ?
Les servitudes nucléaires, c'est effectivement les emplois les plus dégradés. Alors, l'expression, elle vient de l'industrie nucléaire, qui appelait servitude, comme on parle des servitudes d'une technique ou des servitudes dans une propriété. Enfin, c'était un terme qui était quelque peu banalisé. Et il s'est appliqué à tout ce qui était le sale boulot et notamment la décontamination. La décontamination, l'ouverture des GV, le décalorifugage, c'est-à-dire des boulots peu qualifiés, mal payés et très coûteux en dose. Donc c'est ça les servitudes nucléaires.
Mal payés, moi j'ai vu des annonces, effectivement c'est 9 euros, 9,20 €.
Oui, c'est scandaleux. Hein. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu une incitation financière et ensuite, une fois qu'ils ont eu, je dirais, une clientèle de travailleurs captifs de ce système, on a vu baisser les primes de déplacement, etc.
D'accord. Peut-être juste revenir sur cette histoire de dose. Donc, il y a eu une dose annuelle tolérée, on va dire, qui est de 20 millisieverts, qui est qui n'est pas une norme sanitaire, qui n'est pas une norme qui a été définie par des médecins.
C'est une norme qui a été définie par la Commission internationale de radioprotection sur ce principe du rapport coût-bénéfice. C'est-à-dire qu'on sait que la radioactivité donne le cancer. Alors, même si il y a quelques médecins ou scientifiques qui font des postulats non vérifiés, que les faibles doses n'auraient pas la même toxicité que les fortes doses. Maintenant, il y a un consensus international sur la toxicité, y compris des faibles doses. Donc, la Commission internationale de radioprotection ne pouvait pas partir sur un seuil de toxicité. Et donc, ils sont partis sur autre chose, sur est-ce que les bénéfices sont supérieurs aux coûts. Et le coût a été calculé sous forme de coût économique de la vie humaine. Donc, combien de cancers, combien de vies humaines, avec une appréciation, je dirais, extrêmement fantaisiste, pour le moins, de la vie humaine.
Combien ça coûte, alors, une vie d'ouvrier ?
Ah, ça, je sais plus, hein, parce que, franchement, c'est des chiffres que je trouve tellement scandaleux qu'ils me sortent de la tête. parce qu'en plus, une vie d'ouvrier vaut moins cher qu'une vie de cadre. Une vie d'Indien vaut infiniment moins cher qu'une vie de Français ou d'Américain. Donc, le principe en lui-même est absolument insupportable, quoi. Donc, rien que le principe en lui-même, je considère que c'est criminel de raisonner comme ça. Et donc, c'est ce calcul-là qui a donné lieu aux évaluations par la CIPR, avec une estimation des cancers en référence à quelque chose qui n'a quand même rien à voir avec l'exposition des travailleurs, qui est ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. Et en fait, il y a de plus en plus quand même de contestations de l'extrapolation de ce modèle aux formes d'exposition comme celle des travailleurs. Enfin, ça n'a rien à voir. Quand il y a eu l'événement Hiroshima-Nagasaki et le suivi qui a perduré, et l'exposition à bas bruit qui est celle des travailleurs intermittentes avec des débits de doses différents, il n'y a jamais eu de véritables travaux sur les différents types d'exposition qu'on voit dans le nucléaire. Une dernière chose par rapport à ça, il y a le directeur de l'IRSN qui en 2005 a dit on pensait que supporter 1 millisievert pendant 100 jours équivalait à supporter 100 millisieverts pendant un jour. Cette équation est mathématiquement juste, mais biologiquement fausse. Donc, ils admettent qu'il y a probablement de très très grandes variabilités dans la toxicité des expositions, mais il n'y a pas de travaux de recherche qui portent là-dessus.
Sur les faibles doses, donc, ouais. Ça reste encore...
ça reste encore tout à fait...
La médecine du travail ne s'est pas prononcée là-dessus, par exemple.
La médecine du travail, je dirais qu'elle n'a pas les moyens, parce que ce n'est pas son boulot. Malheureusement. Mais la médecine du travail, elle peut constater, elle peut enregistrer. Il n'y a pas de travail de recherche qui a été construit à partir même des observations que certains ont pu faire. Je pense à certains médecins du travail qui ont eux-mêmes dénoncé ce système de gestion de l'emploi par la dose, mais qui n'ont jamais pu aller au-delà.
Alors juste un mot pour terminer. Est-ce que c'est facile de faire des recherches sur le nucléaire ?
Non, c'est pas facile de faire des recherches sur le nucléaire. J'ai fait cette recherche, je dirais que pour moi, comme chercheur en santé publique, j'avais la légitimité d'un travail qui, très clairement, concernait la santé publique. Donc, c'est ce qui m'a permis de faire ce travail auprès des travailleurs sous-traitants. Et je dirais que c'est parce que j'ai réussi à établir un rapport de confiance avec ces travailleurs que j'ai rencontrés dans le cadre de cette première enquête en médecine du travail que j'ai pu le faire. Et puis, bon, après, j'ai fait tout un travail d'enquête complémentaire auprès de certains médecins du travail, syndicalistes. J'ai eu énormément de mal à obtenir la possibilité de visiter une centrale, et encore hors arrêt de tranche. J'ai pas pu rentrer dans une centrale en arrêt de tranche, puisque j'ai pas du tout été financée par l'industrie nucléaire.
Tu restes une chercheuse indépendante ?
Je suis une chercheuse indépendante de l'industrie.
Est-ce que vous êtes nombreux ?
Non. Nous sommes très peu nombreux, malheureusement.
Et du coup, au-delà de tes recherches, tu t'es investie dans des associations par rapport à ce problème-là ?
Oui. Alors, je suis dans des associations depuis longtemps sur ces questions de santé des travailleurs et aussi santé environnementale. L'association Henri Pesera Santé Travail... Travail Santé Environnement, c'est une association qui justement met en réseau les différentes associations, différents collectifs qui résistent à cette situation-là, que ce soit dans la chimie, que ce soit dans le nucléaire ou que ce soit par rapport à l'amiante, par exemple.
Est-ce qu'il y a une association spécifique de travailleurs du nucléaire qui lutte sur ces questions ?
Oui, il y a une association qui s'appelle Sous-traitance Santé dans le nucléaire et la chimie, qui a été constituée à l'initiative de travailleurs de la sous-traitance du nucléaire. Et qui soutient par exemple la première démarche de demande de faute inexcusable de l'employeur par un sous-traitant atteint de cancer qui va être jugé dans quelques semaines.
Voilà. Merci beaucoup.
Alors, Annie Thébaumoni vient de parler de l'association Santé Sous-traitance Nucléaire Chimie. On va donner la parole à des membres de cette association juste après ce morceau de Sarc Loré qui s'appelle « La saga des machins et des zinzins ».
J'ai mis le nez à ma fenêtre ce matin. J'ai mis le nez à ma fenêtre ce matin. Bah, y avait une centrale nucléaire dans mon jardin. Et bah, c'est vrai, ça, y avait une centrale nucléaire dans mon jardin. J'ai dit, oula, oula, qu'est-ce que c'est que ce machin? J'ai dit, oula, oula, qu'est-ce que c'est ce machin? Vous auriez pu essayer de le mettre un peu plus loin. Ah bah, c'est vrai, ça, vous auriez pu essayer de le mettre un peu plus loin. Le flic m'a dit, mon vieux, c'est là qu'on en a besoin. Alors moi j'ai dit, mais pourquoi qu'on en a besoin? Le flic m'a dit, mon vieux, c'est pour faire marcher les machins. Alors j'ai dit, mais pourquoi qu'on fait marcher tous ces machins? Le flic m'a dit, mon vieux, c'est pour pas les avoir achetés pour rien. Alors je dis, mais pourquoi qu'on achète tous ces machins? Le flic il m'a dit, mon vieux, c'est pour pas les avoir fabriqués pour rien. Alors j'ai dit, mais alors pourquoi, mais pourquoi qu'on les fabrique tous ces machins? Et ben, le flic m'a dit, mon vieux, faut arrêter de faire le malin. Le flic m'a dit, mon vieux, vous commencez à me casser les machins. Et vous commencez aussi à être un peu subversin. Et si je veux, moi, quand je veux, je vous fais coffrer chez les zinzins. Alors j'ai couru dans la rue, crié hola hola, faut arrêter tous les machins. J'ai couru dans la rue, crié hola hola, vous avez pas vu ce qu'ils ont mis dans mon jardin? Il y avait un type, il regardait le foot en couleur chez les Argentins. Il y avait un type, il regardait le foot en noir et blanc parce qu'il était pas tellement rupin. Il y avait un type, il regardait tourner un gigot dans un four Arthur Martin. Il avait mis du poivre, du sel, de l'ail et puis du romarin. Une chiée de trucs, une craquée de bidule et puis un tas de machins. Il attendait d'une minute à l'autre l'arrivée de quelques cousins. Puis j'ai vu une maison où ce qu'il y a rien qui était éteint. Même qu'alors là dans cette maison c'était allumé dans tous les coins. Même qu'alors là c'est vrai, il n'y avait pas un seul coin qui était éteint. Alors j'ai regardé le numéro de la rue, et ben c'était le mien. Alors j'ai pensé à la facture du mois prochain. Mais là il y a le flic qui m'a dit, mon vieux, faut pas t'en faire, on est voisins. C'est pas pour les prunes que la centrale est dans ton jardin. Alors je me suis dit, dans le fond cette centrale, eh ben, elle est très bien. Y'a la calapane en verre avec un petit peu de lierre, on n'y verra plus rien.
Vous êtes toujours avec Comme à la radio sur Canal Sud 92.2 sur la bande FM et on parlait de l'association Santé Sous-traitance Nucléaire Chimie. Cette association s'est créée pour soutenir les travailleurs du nucléaire dans leur reconnaissance des maladies liées à l'exposition aux radiations et à la contamination. Et Philippe Billard, qui est salarié chez Handel. Handel, c'est une entreprise de sous-traitance dans la maintenance nucléaire. Philippe Billard a été lui-même irradié et il est en procédure de licenciement pour avoir dénoncé les dangers du travail dans le nucléaire. On l'écoute nous expliquer pourquoi s'est montée l'association.
Alors, l'association a été montée en 2008 après une réflexion de plusieurs collègues de la CGT et de différents syndicats. Pourquoi cette association? Parce qu'on s'est rendu compte que il y avait de plus en plus de coups de téléphone qui arrivaient à la maison de salariés à défendre sur des maladies professionnelles non encore connues, notamment des cancers. Donc on s'est dit, suite à l'enquête qu'on avait eue sur le cirque, qu'il y avait de fortes probabilités que ce qui avait été écrit dans l'enquête s'avère vrai, puisque aujourd'hui on a des salariés qui déclarent des cancers, et on s'est dit il faut réagir vite car on est peut-être face à la même chose que l'amiante. Donc on s'est dit il faut monter cette association parce que et on l'a montée parce qu'on avait aussi des fermetures de nos organisations syndicales, de toutes organisations syndicales confondues, sur la construction d'un outil de défense de la santé au travail rapide pour les salariés de la sous-traitance dans le nucléaire. Donc même de ce côté-là, au niveau des organisations syndicales, on est délaissé, on va dire.
Alors maintenant, on va écouter Dominique Sanson. Dominique est soudeur, lui aussi, comme Philippe Billard, donc chez Handel, cette filiale de GDF Suez. Il a été contaminé interne suite à un accident du travail. Contaminé interne, ça veut dire qu'il a ingéré des particules radioactives. Il va donc nous expliquer comment cela est arrivé. Vous l'entendrez parler de C1, C2, C3. Ce sont les sas de contrôle de la contamination que les salariés doivent traverser donc avant de pouvoir sortir de la centrale.
Je faisais une soudure donc sur une vanne, dans un coin, très mal foutu, quoi. Et puis si tu veux, logiquement il aurait dû y avoir un sas de montée, n'ayant pas de sas, donc je dis moi je peux pas commencer quoi que ce soit, donc je commence à préparer le matériel et tout, et puis ensuite je téléphone à mon chef en disant bah, écoute, il n'y a pas de sas, je pourrais pas commencer le boulot, voilà. Et puis l'après-midi, il me dit non, mais tu sais, EDF, maintenant, c'est fini, les SAS, on monte juste une aspiration dynamique, hein, c'est-à-dire donc comme un aspirateur, hein, qui est juste au-dessus de ton travail. Je dis, mais non, si je fais ça, on coupe, hein, on va en mettre partout. Il faut un SAS hein, pour essayer de concentrer donc, la contamination. Bon, ça c'était la première journée. La deuxième journée, ils m'ont dit non, là, ils ont commencé à mettre pas mal la pression, parce que chaque boulot, s'ils prennent du retard, forcément, l'arrêt de tranche, lui, donc la révision, prend d'autant de retard. Donc, si tu veux, s'ils prennent 24 heures, imaginons, ils prennent 24 heures de retard, on va te mettre ça en euros, ça te fait quand même pas, un peu plus d'un million d'euros, tu vois, par 24 heures. Donc, on divise ça par 24, pour une heure, c'est énorme, quoi. Même s'ils perdent une heure, pour eux, bah, forcément, c'est. Voilà. Donc, forcément. Moi, ils m'ont mis la pression, pas EDF, hein, parce que EDF, là, c'est une cloison. C'est mon chef hein, qui poussait au cul en me disant, écoute, faut absolument que tu finisses ce soir. Ça, c'était le deuxième jour. Hein. Et puis moi, j'ai dit, écoute, moi, je suis désolé. Parce que moi, tant qu'il n'y aura pas de ça, je ne ferai pas le boulot. Le troisième jour, alors là c'était bras-le-bras de combat. Parce que là EDF, ils allaient dur. Alors là, c'est le chef d'agence carrément qui s'est déplacé. Hein. Et en me disant, écoute, maintenant tu vas faire le boulot. Hein. Et moi, je dis, pas question, je ne te ferai pas le boulot. Tu es peut-être le chef d'agence, mais moi, je ne te ferai pas le boulot tant qu'il n'y a pas de sas à monter. Et bon, alors là, il a commencé à employer les grands mots. Tu m'emmerdes, tu commences à nous faire chier. Si tu ne fais pas le boulot, si c'est pas fini ce soir, je te mute, je te vire, je te fais toutes les misères. Alors bon, hein, forcément, mutation, machin, je me voyais déjà dans le fin fond de la France et tout le bazar, et me faire voyager assez souvent. Donc j'ai dit, ok, tu te prends comme ça, je te fais le boulot. Mais c'est toi qui vas en compatir s'il m'arrive quoi que ce soit. Donc j'ai fait le boulot, bon, en priant forcément, pourvu qu'il ne m'arrive rien, il ne nous arrive rien, parce qu'il y avait moi et mon collègue. Donc on fait le boulot, et puis au moment de sortir, ça sonnait. Donc quand je suis passé dans le portique, voilà, ça s'est déclenché de partout. Quoi.
Au C1.
Bon, pas de panique, j'étais dans le C1, je retire mes chaussures, parce que ça sonnait comme ça sonnait partout. Hein. La combinaison blanche, tout, le calot, tout, le casque, machin, je passe, ça sonnait encore. Quoi. Alors là, j'ai dit, là, il y a un souci. Hein. Et puis au C2, bon, forcément, c'était même pas la peine quand je passais au C2, parce que là, c'était même pas la peine. Quoi. Pourquoi, si j'étais contaminé, c'est que D'une part, la fameuse aspirateur qui avait juste au-dessus, donc on appelle ça un cycler. Mais bon, ça joue le rôle donc d'un aspirateur, quoi, pour aspirer toutes les particules. À ce moment-là, on me l'a débranché. Pourquoi ? Parce que, si tu veux, dans un réacteur, il y a tellement comme personnes là-dedans, hein, c'est des centaines et des centaines de personnes, donc forcément les prises ne correspondent pas vraiment au nombre d'intervenants, quoi. Donc il n'y a pas cette prise. Et puis il y a un type qui a dû passer par là, il a dit tiens, hop, clac, je le débranche, et puis j'ai branché mon outil. Quand j'ai entendu, parce que le cycler, c'est comme un aspirateur en plus, hein, ça aspire, donc on l'entend quand même. Et à un moment donné, j'ai entendu, le cycler s'est stoppé, quoi, s'est arrêté. Donc là, forcément, j'ai tout arrêté et tout, et puis j'ai téléphoné donc à mon chef de chantier pour qu'il prévienne EDF par laquelle que mon cycler ne fonctionnait plus. Donc que je stoppais donc les travaux. Au bout d'une demi-heure, je rappelle, j'ai dit, écoute, j'ai toujours pas personne est venu pour voir le cycler, quoi. Ou on apportait un autre éventuellement. Il me dit, écoute, je le rappelle, hein, mais voilà. Donc, en attendant, donc l'heure, elle passait toujours. Hein. Et je me suis dit, je vais aller voir. Je vais essayer de voir à peu près le câble, hein, où il passe pour aller au bout, quoi. Ça, c'est peut-être, je sais pas, dans la prise qui déconne, quoi. Donc, j'ai dit, merde, non, le cycler, parce que normalement, un cycler doit être branché à proximité, hein, environ 10, 12, 12 mètres. Là, elle était branchée, les types en question qui avaient donc mis le cycler en route, ils l'avaient branché à deux étages en dessous. Hein. Donc avant de trouver ça, parce que c'est un vrai labyrinthe, une centrale, c'est une centrale nucléaire, donc c'est un vrai labyrinthe. Donc tant bien que mal, au bout d'une demi-heure, j'ai trouvé où se trouvait la prise. Et là, quand je me suis rendu compte, la prise était par terre. Alors plus mon employeur qui m'envoie des courriers, j'ai pris mal. Et puis bon, après je suis retourné le voir. J'ai dit, maintenant je veux que vous me déclarez ça, ou je veux que vous me déclarez ça, en accident de travail. Alors là, il m'a carrément rigolé au nez. Hein. Mais bâton, t'as rien, t'as qu'est-ce que c'est ? Il me dit, qu'est-ce que t'as ? Tu saignes pas, il n'y a rien. Je dis, non, je saigne pas, c'est encore bien pire. C'est ce qu'il m'avait dit aussi, comment il s'appelle, quand le président de l'époque.
Monsieur
Viglia, même si Sanson, où est-ce que vous avez été blessé ? Vous n'avez pas de main ? Vous n'avez rien ? T'sais, en plus, on se fout de toi, mais je veux dire, ça fait mal, ça. Hein, je veux dire, voilà, c'est dur. Hein. Ah bah ouais. Parce que, et en plus, pendant 3 jours, je ne pouvais pas passer au C3. Parce que, heureusement qu'il y a ça encore, les C3. Non. Alors les C3, c'est quand tu as fini ta journée, hein, tu te badges à la sortie donc, de la centrale, tu te contrôles dans ce fameux C3, tu rentres dans un cache, quoi, hein, voilà, et on te contrôle savoir si tu as des particules éventuellement sur toi, si tu es contaminé. Quoi. Donc, suite à ça, si tu n'es pas contaminé, tu sors. Mais si tu es contaminé, là tu sors pas. Donc pendant 3 jours, on m'a fait une feuille pour éviter justement ce C3. Parce que c'était même pas la peine que je passe au C3. Je bombardais de partout. Hein. Ah, oui. À la fermerie, le docteur donc, m'a fait une feuille par laquelle, pour donner aux gardiens, parce que sinon, tu es forcé de sauter par-dessus, mais si tu fais ça, là, on t'arrête tout de suite. Hein. Et donc une feuille pour justement pour pouvoir éviter le C3. Voilà.
Alors, que se passe-t-il quand on tombe malade suite à une contamination ou une irradiation ? Qu'en est-il du suivi médical ? Daniel Loingo, qui est échafaudagiste en centrale depuis 20 ans, a eu une embolie pulmonaire. Et avec Philippe Billard, ils évoquent ce que deviennent les dossiers médicaux à EDF.
Parce que c'est pareil, il y a des dossiers qui se perdent à l'EDF.
Ça veut dire quoi ? Je vais t'expliquer après, parce que j'ai fait un dossier.
D'un côté, quand on est contaminé à interne et qu'on essaie de faire enregistrer nos doses et tout ça c'est bien enregistré. Mais ensuite, pour moi, pourquoi ça se perd ? C'est parce que à la longue, ils veulent pas qu'on soit reconnu en tant que maladie professionnelle ou en tant qu'accident du travail. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye de changer tous les contrats tous les 3 ans ou tous les 5 ans. C'est simplement pour faire tourner le personnel, avoir du personnel nouveau et puis et recommencer, avoir de la chair fraîche dans le nucléaire. Quoi.
Vous pensez qu'EDF cache volontairement les maladies dues au travail ou...
je pense que oui, puisqu'il n'y a aucune transparence, il n'y a rien, on n'arrive pas à voir quoi que ce soit. Quand on essaye de les parler, ne serait-ce qu'en pleine réunion, qu'on essaye de parler avec eux, ils se referment à toutes nos questions. Là, quand j'ai demandé à rencontrer le médecin du travail de EDF, simplement pour qu'il m'évoque, alors que je suis délégué prestataire, pour qu'il m'évoque un peu son ressenti par rapport à cette population qui est à l'intérieur de son site. Oui, on prend bien rendez-vous, j'étais deux ou trois fois, mais j'ai pas eu de suite. Quoi.
Bon, moi je pourrais éclairer un petit peu quant à la perte de la mémoire de notre dossier médical chez EDF. Moi je suis allé en justice avec le cabinet Tessonnière à Paris, contre EDF, parce que je leur avais demandé, par le biais de mon médecin traitant, mon dossier médical sur chaque site. Il est recommandé avec acquis d'interception plus à la direction du parc nucléaire d'EDF. Et je n'avais jamais eu de réponse, donc je les ai assignés en justice au tribunal d'instance du Havre. Le dossier a été plaidé par les deux parties, EDF plaidant, enfin l'avocat d'EDF plaidant, dit, nous les dossiers, personnellement, on n'a pas de dossier médical, c'est un sous-traitant, on n'a rien sur lui. Et quand bien même on aurait quelque chose sur lui, on ne garde pas plus de 5 ans. Voilà. Tout passe à la trappe. En fait, c'est vachement important parce que qu'est-ce qui passe à la trappe? Toutes nos entrepôts gamamétriques, toutes nos analyses de sel, d'urine, quand on est contaminé interne. Tout ça, ça dégage. Notre suivi dosimétrique, il dégage. Tout ça, c'est parti, c'est dans le vent. Et moi, je les avais aussi assignés.
Et pourquoi, à votre avis, ils suppriment ces dossiers?
Pour ne pas avoir plus tard une reconnaissance devant les tribunaux.
Si je suis patron et que je sais que je vais fuder le cancer à une cohorte de salariés, que j'expose à des cancérogènes, pour pas qu'ils m'emmerdent, je brouille les pistes. Quoi. Franchement, il faudrait être un employeur con pour ne pas faire ça.
Bon, vous pensez que c'est délibéré?
Bien sûr que c'est délibéré, sinon il n'y aurait pas de but de la sous-traitance.
Alors faut-il avoir peur d'EDF à cause de ses secrets, de ses méfaits ignorés, à cause de la catastrophe à venir, ou bien l'accident nucléaire est-il déjà arrivé?
Moi j'ai peur maintenant, c'est pour la population. C'est-à-dire que Paris c'est pas si loin que ça, hein. c'est qu'à 200, même pas, on va dire 100
km.
100 km. C'est que demain, si demain il y a un incident grave à Palluel ou à Penly, ou à Dampierre, peu importe. La population, elle va déguster. Parce que nous, on se rend bien compte, hein, on en a parlé plusieurs fois, à plusieurs reprises, c'est que les révisions, c'est comme une voiture. Hein. Si elle est mal révisée, tôt ou tard, elle va se venger, la voiture. Et une centrale nucléaire, bah, malheureusement, c'est pareil. On demande des moments à faire des révisions sur tel et tel robinet. On vous donne un dossier. On va donc dans le bâtiment réacteur. Et d'un seul coup, un coup de téléphone. Écoute, Dominique, le travail là, on ne fait plus parce que c'est son temps. Donc, on fera l'arrêt prochain. Donc, dans un an et demi, 2 ans, 3 ans. Voilà. Alors, on attend maintenant que le matériel explose.
Avant
de faire la révision.
Maintenant, on fait la révision.
On va passer de la maintenance préventive à la maintenance
opérationnelle.
Tôt ou tard, ça pète comme ça.
Tôt ou tard, il arrivera un accident. Et c'est là le plus grave. Bon, certes, ce qui est grave, c'est que hein, mon collègue, malheureusement, est grièvement malade. Moi, peut-être dans quelques temps aussi. Hein, tous ceux qui sont autour de la table.
Potentiellement.
Mais demain, il arrivera autre chose de bien plus grave. C'est que la population va être atteinte. Et ça, en fait,
je sais pas
ça il est temps de le dire.
Non, mais c'est bien.
Il va bien falloir le dire à quelqu'un.
Il y a ça, mais pour moi, l'accident nucléaire, il est déjà arrivé. Christian, avec le cancer, c'est déjà un accident nucléaire.
Bien sûr.
C'est un accident. On est déjà allé trop loin. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Vous venez d'entendre Philippe Billard dire que Christian avec le cancer, c'est déjà l'accident nucléaire. Il parlait de Christian Véronneau, salarié d'Endel, lui encore. Aujourd'hui, Christian est mort des suites de ses cancers. Je vous lis maintenant son avis de décès publié sur le site de l'association Santé Sous-traitance Nucléaire Chimie. Christian Véronneau, salarié de la sous-traitance du nucléaire, est décédé le 10 septembre 2012 des suites de ses cancers contractés à cause de ses expositions au rayonnement ionisant. L'association Santé Sous-traitance rend ici hommage à ce salarié qui n'a eu de cesse de lutter pour dénoncer les méfaits des expositions au rayonnement ionisant et à sa famille qui l'a toujours accompagné dans les moments de pure douleur. Nous ne pouvons plus accepter qu'un salarié meure au nom de l'emploi. À toutes celles et ceux qui vantent les mérites du nucléaire et sa capacité à faire de l'emploi morbide, il n'est pas utile qu'il se présente aux obsèques de celles et ceux qui meurent à cause de ses choix inhumains. Existerait-il dans ce monde du nucléaire des sous-hommes que l'on pourrait faire mourir sans verser une larme? Existerait-il dans ce monde du nucléaire l'autorisation du sacrifice de ces sous-hommes? L'association Santé Sous-Traitance continue d'accompagner d'autres salariés dans la reconnaissance de maladies professionnelles dues aux expositions au rayonnement. Nous n'aurons de cesse de mettre en lumière les méfaits de cette industrie morbide et nous n'aurons de cesse de montrer celles et ceux qui décident de permettre de tuer au nom de l'emploi.
Si vous voulez en savoir plus sur les salariés du nucléaire, le site de l'association Santé Sous-Traitance Nucléaire Chimie, c'est le www.sst-nucléaire-chimie.org ou le site de l'association d'Henri Pézra, Travail Santé Environnement, qui aide aux luttes sociales concernant la santé des travailleurs dans l'amiante, le nucléaire ou la pétrochimie. Et donc c'est le www.asso-henri-pézra.org et Pézra c'est P-E-Z-E-R-A-T. Et pour d'autres témoignages de salariés de la sous-traitance, tapez Invisible du nucléaire sur Vimeo. Et puis on vous propose deux ouvrages écrits par Anité Beaumoni, Industrie nucléaire, sous-traitance et servitude, édité par l'INSERM en 2000, et Travailler peut nuire gravement à votre santé, édition de la Découverte en 2007. Vous pouvez aussi joindre l'émission Comme à la radio en nous écrivant à commealaradio@yahoo.fr. Et voilà, en vous envoyant vos commentaires, vos réflexions, vos infos diverses, tout est bienvenu.
Rendez-vous dans 15 jours sur cette même antenne. Au revoir.37個発電所がまだ増える。